Bonjour, bonjour à tous, mardi 18 septembre 2018, bienvenue dans les voies de service sur Canal M, je suis Louis de Bernis et j'ai en ma compagnie Jean-Charles Algan. Bonjour,
bonjour, bonjour, bonjour.
Comment allez-vous aujourd'hui?
Très très bien, merci beaucoup, et vous?
Mais très très bien, il se murmure que l'été touche à sa fin. L'automne pointe le bout de son nez, mais
pas vite.
Mais pas tranquillement, et nous, nous sommes toujours là en tout cas, et nous allons être là tout l'automne avec plein de sujets, comme d'habitude. Peut-être nous rejoindra-t-il tout à l'heure, c'est la surprise du chef.
La surprise.
On verra. En attendant, nous avons beaucoup d'articles pour vous, ne vous inquiétez pas. À commencer par les vôtres, Jean-Charles. Quels sont-ils ?
Eh bien, une petite confidence de voyageur, le voyage qui forme la jeunesse. Une jeune femme, sa vie a été un peu changée suite à un voyage que je vais vous raconter. Et puis, autour du globe sans avion, c'est aussi un autre récit. Des gens qui ont fait le tour du monde, un couple, sans prendre l'avion. Et c'est assez intéressant. Et puis, des petits trucs sur les chasseurs d'aubaines aériennes, des sites où il faut aller pour trouver le meilleur prix. Voilà.
Excellent, de mon côté, comme d'habitude, eh bien, des choses qui étonnent, avec notamment cette histoire un peu farfelue d'un jeune homme qui a contacté presque 300 filles pour retrouver celle qu'il avait rencontrée. Il y en a qui ont de la motivation, écoutez. Nous parlerons également, vous connaissez les prix Nobel sûrement, et eh bien les prix IG Nobel 2018, ça vous connaissez sans doute moins, et pourtant c'est intéressant et amusant en tout cas. Et puis également, eh bien, de la plus ancienne brasserie du monde. Je pense que vous ne devinerez pas le pays dans lequel elle a été découverte. C'est la réponse tout à l'heure, tout de suite, dans les voies de service.
Confidence de voyageurs, le voyage qui forme la jeunesse, c'est Audrey Ruel-Manceau. Mathilde Lévesque est une jeune cherbrookoise qui, à la fin de la cinquième secondaire, a fait un voyage humanitaire en Haïti organisé par son école, le séminaire salésien. Elle avait déjà voyagé essentiellement dans des formules tout inclus, mais cette expérience en Haïti lui a ouvert les yeux sur une toute autre facette du monde et sur ses réalités parfois diamétralement opposées aux nôtres. Récit candide d'une jeune fille de 16 ans. Nous étions 20 élèves de 5e secondaire sélectionnés pour ce voyage. Nous avions un an pour faire des activités de financement et c'est en mai dernier que le tout s'est concrétisé et que nous nous sommes envolés pour Gressier, une communauté située à 30 km de Port-au-Prince. Nous allions dans une école salésienne dirigée par les pères salésiens. Le but était de créer des liens avec des gens là-bas, de découvrir une nouvelle culture, de leur offrir notre amitié, de leur transmettre nos connaissances et vice-versa. Bref, de passer du temps avec eux, autant avec les tout-petits de la garderie qu'avec les élèves de notre âge. Avec mes parents et mon petit frère, j'avais beaucoup voyagé à Cuba, au Mexique, en République dominicaine, aux États-Unis, mais toujours dans de gros hôtels. En Haïti, nous logions dans le dortoir de l'école. Tout était complètement différent de ce que j'avais connu en voyage. D'abord, nous pouvions créer des liens véritables avec des gens de là-bas. Dans les hôtels, tu t'en tiens souvent à ta famille et aux touristes. C'est rare que tu vas vraiment apprendre à connaître les gens qui vivent là. Aussi, dans les tout inclus, tout est facile, justement. Tu as faim, tu manges. Tu as chaud, tu sautes dans la piscine. En Haïti, on avait vraiment chaud, mais nous avions droit à une douche de 10 minutes par jour et c'était tout. Même si ce n'était pas aussi luxueux que chez moi, je me suis tout de suite senti à l'aise là-bas. On a été bien accueillis et les Haïtiens faisaient tout pour que nous soyons confortables. Nous étions réellement bien, tout simplement. Juste d'être là-bas comblait pas mal tout. On n'avait pas besoin de piscine ou de buffet. Ce voyage-là a changé ma vision de la vie. Je me suis rendu compte à quel point nous sommes habitués à avoir tout à portée de la main. Je généralise, mais par exemple, nous jugeons facilement ici. Eux, ils acceptent tout le monde tel qu'il est. Nous chialons pour des futilités alors qu'eux auraient plusieurs très bonnes raisons de se plaindre et ne le font pas. Ça m'a donné une autre vision de la vie qui m'a donné confiance en moi et en mes moyens. À mon retour, j'ai réalisé que ça pouvait être simple, la vie. Que j'avais beaucoup de choses et de relations utiles qui ne m'apportaient rien de positif. J'ai fait du ménage et je ne m'en porte que mieux. J'ai délaissé des relations toxiques et j'ai changé certaines habitudes. Fini les douches chaudes interminables. Je dirais que j'ai aussi lâché mon téléphone cellulaire que j'utilisais trop souvent. J'ai compris que de passer du temps avec ma famille, c'était beaucoup plus important que d'être sur les réseaux sociaux. J'ai pris conscience après coup, et c'est nous qui avons été les plus émus à la fin du voyage en Haïti. Je crois que nous avons appris beaucoup, beaucoup plus que ce que l'on croyait au départ. Les tout inclus, c'est amusant, mais rien ne m'a autant fait grandir que cette semaine dans un dortoir en Haïti.
Jean-Charles, vous est-il déjà arrivé de rencontrer une personne au sujet de laquelle vous avez eu l'impression qu'elle ferait changer votre vie, elle aurait un impact impressionnant? Je veux dire, à part le jour où on s'est rencontrés nous deux et on a compris que notre collaboration allait changer notre vision du monde.
C'est sûr.
À part ce jour-là.
Non, finalement.
Eh bien, ce n'est pas le cas de cet étudiant dont je vais vous parler là, qui lui, sans doute, a eu cette impression parce qu'il s'est démené pour retrouver une Nicole. Il n'avait que son prénom pour retrouver une jeune femme rencontrée la veille. Un étudiant a envoyé un courriel aux 246 Nicole de l'université de Calgary, mais ce sont elles qui ont finalement sympathisé. Nous avons un réseau de Nicole maintenant, raconte Nicole Manaog, étudiante en communication. Carlos Zenita, un étudiant de cette université de l'Alberta, avait rencontré Nicole Tuttenel jeudi dernier, mais ne connaissant pas son nom de famille, il a contacté toutes les Nicole de l'université avec un courriel intitulé « Je t'ai rencontré hier soir et tu m'as donné un mauvais numéro ». Pas de chance pour lui, Nicole Tuttenel est une Néerlandaise en programme d'échange au Canada et n'a donc pas d'adresse courriel affiliée à l'université de l'Alberta. Les autres Nicole, en revanche, ont vite commencé à s'échanger des centaines de messages. Après avoir poursuivi leur conversation sur les réseaux sociaux, sans Carlos, elles ont décidé de se rencontrer. Nous avons créé une page Facebook pour nous, les Nicole, et nous avons parlé en ligne. C'est sympathique que la technologie nous ait permis de nous connaître, a dit Nicole Radjeber, étudiante en théâtre à l'université de Calgary. Dès vendredi après-midi, plusieurs Nicole se sont rencontrées dans un bar proche du campus universitaire dans le quartier de Kensington. Une quinzaine d'étudiantes, de professeurs et d'employés de l'université ont répondu présentes. Lorsque Carlos a envoyé ce courriel, il n'a pas vraiment fait de distinction, alors toutes sortes de personnes l'ont reçu, a expliqué Nicole Dugray, une des étudiantes ayant monté la page Facebook « Nicole d'hier soir ». La vraie Nicole, comme elle est désormais appelée, a finalement été mise au courant de la situation par l'entremise d'une amie dès vendredi soir. Elle est attendue à la deuxième réunion des Nicole vendredi prochain, à laquelle plus de 25 jeunes femmes ont prévu de venir. Nicole a fini par contacter Carlos par texto, la vraie Nicole, et ils ont prévu de se revoir autour d'un café au cours de la semaine, selon Nicole Radberger. Les 246 autres Nicole n'ont pas été conviées cette fois-ci.
Tes grenades me bombardent et me rend gaga comme un serpent charmé par une magicienne. Une magicienne. Sous un ciel de Californie, elle pop aux belles d'Hawaï. Une sirène chante dans la nuit. Une belle d'Hawaï. sur son île volcanique, où les poupées talismans témériques se vendent comme des chaussons. Elle serait pas là en train de te dérégler mes pures intentions, de siffler mon verre et d'aller me coucher sous un ciel de Californie. Tire dans les miens, je sais pas d'où vient la force qui me retient. Je divague, je nous vois tous les deux dans les vagues. Je divague, je nous vois tous les deux dans les vagues. À surfer, à plonger, à faire la bête à deux dos dans le sable. Sous un ciel de Californie,
Yann Perrot, belle d'Hawaï.
Nous vous l'annoncions en début d'émission, chose promise, chose due, nous tenons parole dans les voies de service. Yves Olivier est arrivé, s'est installé dans le studio.
Bienvenue
à lui et je lui passe la parole sans plus tarder pour son sujet.
Merci, bonjour à tous.
Bonjour.
Je commence par une petite question. Alors, l'un de vous deux pourrait-il me donner une petite définition de ce que c'est un bitcoin?
Jean-Charles qui fait non.
Pas vraiment, mais je vois à peu près de quoi il s'agit, mais une définition, c'est plus difficile.
Si je ne me trompe pas, c'est une monnaie virtuelle, uniquement virtuelle, et qui n'appartient à personne, à aucune bourse qui...
Ok, bah ça on va voir.
Je vais m'arrêter là avant de dire des bêtises.
Mais sinon, si oui, exactement, ça ressemble à ça. Donc, la monnaie dématérialisée. Et ça rentre dans la catégorie de la crypto-monnaie. Voilà. Donc, je vais vous parler d'un texte de Sébastien Sept qui date du 14 septembre 2018. Les monnaies dématérialisées subissent une crise qui rappelle l'éclatement de la bulle Internet au début des années 2000. Le Bitcoin a ainsi perdu plus de 60% de sa valeur depuis début 2018. Donc, plus dure sera sa chute. Après une année 2017 marquée par un engouement sans précédent des investisseurs, les monnaies dématérialisées, telles que la Bitcoin ou encore l'Ethereum ou encore le Ripple, tombent de très haut. C'est le grand crash, assure la chaîne économique américaine Bloomberg, qui n'a pas hésité, mercredi 12 septembre, à comparer la dégringolade actuelle à l'éclatement de la bulle Internet du début des années 2000. L'indice MVIS, à peu près l'équivalent du CAC 40 pour le monde des bitcoins, et donc ça répond à ce que vous disiez tantôt Louis, et consort, aussi rappelé altcoins, a perdu 80% de sa valeur depuis le début de l'année, soit un peu plus que le Nasdaq, qui avait chuté de 79% au moment de la crise des dot-com, constate Bloomberg. Le Wall Street Journal va dans le même sens, soulignant que la valeur de l'ensemble des monnaies alternatives est passée d'un niveau historique de 832 milliards de dollars en janvier 2018 à moins de 200 milliards de dollars. Le crash n'épargne personne. L'histoire du Bitcoin a, depuis sa création en 2009, été marquée par une série de chutes vertigineuses et de rebonds qui lui ont valu une réputation sulfureuse de forte volatilité, à même déguiser les appétits des spéculateurs. Mais rares sont les épisodes de baisse qui ont duré 250 jours, comme c'est le cas avec la crise actuelle. En outre, le crash du moment n'épargne personne. Le Bitcoin reste l'une des crypto-monnaies les plus épargnées, alors même que son cours a baissé de 60% depuis janvier 2018. bon nombre d'altcoins sont perdus près de 100% de leur valeur. Depuis le début de l'année, plusieurs mauvaises nouvelles sur le front des devises alternatives ont contribué à cet effondrement. En juin, deux importantes places d'échange ont été piratées, soulignant une nouvelle fois les problèmes de sécurité des transactions. La SEC, Security and Exchange Commission, gendarme américain de la bourse, a ensuite sévi contre un fonds d'investissement spécialisé dans ces devises, accusé de pratiques financières illégales. Mais ces coups du sort n'ont fait qu'accompagner un mouvement de fonds jugé inévitable par beaucoup d'observateurs. La chute actuelle est moins étonnante que la hausse vertigineuse fin 2017 lors de la valorisation de ces actifs, affirme Nathalie Jansen, économiste et spécialiste des bitcoins à l'école de management française Neoma Business School. Il s'agirait avant tout d'un dur retour à la réalité. En 2017, tout le monde voulait monter à bord du train Bitcoin Echo, tout comme à l'époque de la bulle Internet. Des investisseurs ont misé sur n'importe quel projet en rapport avec la blockchain, donc c'est le registre public des transactions. Le Bitcoin ou l'Ethereum, même s'ils ne le comprenaient pas. Des altcoins comme Insanecoin, qui se décrit comme la monnaie pour ceux qui ont un grain, ou le Putincoin, une devise pour rendre hommage au maître du Kremlin, ont ainsi pu connaître des capitalisations de plusieurs millions de dollars.
Autour du globe, sans avion, c'est Sylvain Sarrazin qui signe cet article. 74 101 km plus tard, la boucle est bouclée, sauf celle des ceintures d'avion. Les Montréalais Aline Charles et Benjamin Gaucher viennent de faire un tour du globe complet sans avoir emprunté un seul vol. Récit d'une aventure terre à terre. Le monde vu d'en bas. Deux silhouettes se dessinent à l'horizon. Un tandem de cyclistes chargés comme des mules effectuent un dernier tour de roue. Le matin même, ils étaient à bord d'un train en provenance d'Halifax. Les parents de Benjamin, bras ouverts sur le fil d'arrivée, sont venus assister au retour de leur fils et de sa conjointe, Aline, partie il y a un peu plus d'un an de ce lieu précis, le seuil de leur domicile dans Rosemont. En dépit de la fatigue, les voyageurs semblent ravis. Ils planent. Et pourtant, ils ont traversé le monde de bout en bout sans décollage ni atterrissage. Leurs alliés non ailés, trains, bateaux, autobus et vélos. Peur de l'avion? Pas du tout. On s'est rendu compte qu'avec le tourisme de masse, les voyageurs tendaient à se concentrer dans certains lieux sans jamais voir ce qu'il y a entre deux destinations. Nous, on voulait prendre notre temps et observer ce qu'on allait parcourir, expliquent Aline et Benjamin, tous deux âgés de 33 ans, et qui n'ont pas hésité à prendre un congé sans solde pour réaliser leur périple. On s'est détaché d'une certaine pression des autres qui demandent systématiquement « Avez-vous vu telle affaire? C'est incontournable. » Les meilleurs souvenirs que nous rapportons, c'est justement hors de cette liste d'incontournables sécurisants. Sans avion, tout est plus plaisant et grandiose, explique-t-il. Et des souvenirs, ils en ont rempli des pleines valises au gré d'un trajet par mont et par eau. Depuis le Québec, ils ont atteint New York, sont embarqués sur le bateau Queen Mary II pour rallier l'Europe, ont traversé la Russie et l'Asie en empruntant des rails du Transsibérien et du Transmongolien, avant de voguer sur le Pacifique à bord d'un porte-conteneurs, remonter la côte ouest des États-Unis et boucler leur odyssée en traversant le Canada à vélo, le tout ponctué de tours et détours tantôt programmés, tantôt improvisés, le Tibet, les Pays-Baltes, Taïwan, les campagnes cambodgiennes. L'itinéraire de nos six premiers mois était à peu près clair, mais après la Chine, il y a eu des choses non prévues, comme faire du vélo au Cambodge et en Thaïlande. La traversée du Canada à vélo n'était pas planifiée au départ non plus, précise Benjamin. Consignant chacune de leurs étapes sur leur blog Eastbound Express, ils font part de leurs expériences et des vertus des moyens de transport terrestre et maritime. À vélo et en train, c'est beaucoup plus facile de parler aux autres. Contrairement à l'avion, qui est utile mais complètement standardisé, le train est un produit de la culture dans lequel il existe, qu'il s'agisse de la nourriture à bord, de la manière dont les gens les empruntent ou des toilettes. De retour à leur routine quotidienne, ils dressent le bilan des bénéfices de leur expédition, tirés en partie des situations inconfortables liées à leur choix de mode de transport. C'est difficile de croire dans la facilité, lance Benjamin. Si vous êtes tenté par une aventure du genre, sachez qu'elle requiert une solide organisation. Aline et Benjamin disposent de plus d'un conseil dans leur poche. En outre, leur blog fourmille d'informations utiles à tout voyageur inspiré. Et les coups de cœur sur terre et sur mer. En train, ils ont fait 35 793 km au total. Ce qui leur a plu, c'est les hautes voltiges sur le plateau tibétain, à 5230 mètres d'altitude. Et puis, de l'Europe à l'Asie, de Saint-Pétersbourg à Pékin, en passant par la Mongolie, ça leur a beaucoup plu. En bateau, ils ont fait 21 378 km. Je vous passe les détails, parce qu'ils en ont beaucoup. Vous irez voir sur le blog. En vélo, 7383 km. Et en bus et en voiture, 9547 km au total. Donc notre trajet favori en auto serait 8 jours off-road en Mongolie, durant lesquels on a pu explorer une portion du désert de Gobi. C'était autour du globe, sans avion.
Tu me dis que tu as tout vu de moi. T'as rien vu de ce qu'il y a sous mon toit. Toi tu t'en balances, tcha 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 et tu danses. Tu te dis romantique, je crois que t'es égocentrique.
Écoute-moi.
Non, c'est pas comme ça.
Écoute-moi.
Non, c'est pas comme ça.
Écoute-moi.
Non, c'est pas comme ça qu'on fait l'amour. Tu me dis qu'il n'y a plein de trucs que moi je ne connais pas. Moi je sais, tu peux le faire aussi bien que les Chinois. Toi tu t'en balances, tcha 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 et tu danses. Tu te dis romantique, je crois que t'es égocentrique. Hey, écoute-moi. Non, c'est pas comme ça.
De Bégin revisitait Les Chinois, pièce de Mitsou.
Parlons de santé et de troubles alimentaires. C'est déjà la fin de l'été, il faut déjà prévoir l'été prochain, donc on se remet déjà à la diète. En plus, c'est la rentrée, ça se fait bien. Ou alors, si vous voulez prévoir le temps des fêtes, je vais vous parler d'une application qui peut aider donc les personnes atteintes de troubles alimentaires. C'est le Loricor, un groupe de recherche de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui se spécialise dans les troubles du comportement alimentaire et qui lance une toute nouvelle application. L'outil, appelé l'intervenant de poche, offre aux participants du programme d'intervention la possibilité d'auto-gérer leur traitement et d'entrer plus facilement en contact avec un intervenant. L'application mobile a d'ailleurs aussi été développée pour permettre à ces intervenants de réagir en temps réel aux besoins. Les données recueillies par l'application se retransmettent de façon anonyme aux chercheurs. Le Loricorps de l'UQTR qualifie l'outil de révolutionnaire. Il permet de mesurer beaucoup plus facilement les données quotidiennes utiles au traitement et au suivi de la personne. De plus, le fait d'utiliser le cellulaire comme moyen de compiler les informations et de les transmettre rend les choses plus simples pour les gens qui suivent les traitements. La directrice du Loricorps, Johanna Montuy-Blanc, affirme que ça fait des années qu'elle souhaitait avoir un tel outil. Avant, il fallait forcément qu'on ait un papier et un crayon, qu'on demande à la personne sous forme de journal intime de compléter les questions, souligne-t-elle. Il y avait un délai de traitement pour pouvoir les traiter. Là, c'est la technologie, c'est magique. Elle ajoute que c'est bien que les gens partent avec leur propre cellulaire, un outil qu'ils connaissent bien. L'application a entièrement été conçue par des professionnels de l'UQTR. L'UQTR a profité du lancement de l'application pour souligner que le Loricorps est passé du statut de laboratoire comportemental à celui de groupe de recherche.
Merci Yves Olivier. C'est intéressant, heureusement qu'il y a la nouvelle technologie. Ça fait progresser beaucoup d'affaires. Et puis moi, je vais vous parler de saleté de sécurité. C'est-à-dire que vous vous rappelez de vous laver les mains après être passé aux toilettes d'un aéroport, bravo. Mais y pensez-vous après avoir passé les contrôles de sécurité? Non. Vous devriez, c'est un endroit de prédilection pour la prolifération des microbes et des bactéries. Des chercheurs finlandais viennent de publier une étude dans laquelle ils ont comparé la propreté de divers points de passage des voyageurs à l'aéroport d'Helsinki et qui a révélé que les plateaux de plastique dans lesquels les voyageurs déposent leurs effets personnels contiennent plus de microbes et de bactéries que tout autre endroit testé, y compris les toilettes publiques de l'aéroport. Les chercheurs ont trouvé les souches de virus causant la grippe ou le rhume sur la moitié des plateaux testés, des vecteurs potentiels importants de transmission de maladies. Il pourrait être particulièrement problématique si un pathogène grave avec un mode de transmission indirect menaçait de se propager à l'échelle mondiale, préviennent les chercheurs. Leur mise en garde, lavez-vous les mains régulièrement.
Ce qui conclut cette première partie, nous allons profiter de la pause pour aller nous laver vigoureusement les mains à la lecture de cette brève et nous serons de retour tout propre pour la deuxième partie avec encore bien des sujets. Restez avec nous, courte pause musicale et nous sommes de retour. À tout de suite.
À tantôt.
Nous revoici, nous revoilà pour la deuxième partie de cette émission ensemble. Je vous en parlais en tout début d'émission. Moi, j'ai encore à vous parler de la plus ancienne brasserie du monde et également des prix IG Nobel. Je vais vous faire découvrir cette cérémonie un peu à part. De votre côté, Jean-Charles.
Alors, moi, je vais parler des chasseurs d'aubaines aériennes et aussi des séjours de plein air qui ont la cote en ce moment. Alors Yves Olivier, lui, devrait nous parler...
Quand il sera de retour.
...de la mode, à propos de mode, s'habiller sans se voir. C'est donc le regard d'un autre pour choisir ses vêtements. Donc c'est ce qu'il va nous lire tantôt, Yves Olivier.
Petite devinette, si je vous dis plus ancienne brasserie du monde, quel pays vous seriez-vous tenté de me répondre ?
Ça se trouverait en Europe.
En Europe, à votre avis ?
Je pense, mais...
Liechtenstein.
Le Liechtenstein, donc on reste en Europe aussi.
Non, l'Égypte.
Perdu,
moi, je parlais des vieux... Ah oui ?
Égypte aurait pu être un bon guess, nous dit...
Parlé des vieux cafés belges la semaine passée, mais c'est peut-être plus en France, alors ?
C'est Maurice qui était le plus proche géographiquement parlant avec son Égypte, puisque je vous emmène en Israël.
Ah oui !
Des archéologues ont découvert en Israël ce qu'ils croient être le plus ancien site de production d'alcool du monde, en l'occurrence une boisson proche de la bière qui pourrait avoir servi lors de cérémonies il y a environ 13 000 ans. Le site se trouve dans la caverne de Rakefet au sud de Haïfa, dans le nord d'Israël, qui servait de lieu de sépulture pour les hommes et les femmes du Natoufien, entre 12 500 et 10 000 avant Jésus-Christ, caractérisé par le début de la sédentarisation. Si nous ne nous trompons pas, nous avons affaire au plus ancien témoignage de production d'alcool de quelque type que ce soit au monde, a indiqué à l'AFP Dani Nadel, professeur d'archéologie de l'université de Haïfa et l'un des auteurs d'un article sur le sujet. Nous savons ce que les Natoufiennes faisaient dans cette grotte. Ils y enterraient certains de leurs morts sur une plateforme recouverte de fleurs et de plantes et fabriquaient apparemment un liquide ressemblant à de la soupe, en fait une boisson alcoolisée. La boisson produite était différente de la bière actuelle, beaucoup moins forte en alcool mais fermentée, dit-il. Trois petits creusets de 40 à 60 cm de profondeur ont été mis à jour, percés à même la surface rocheuse de la grotte. Deux des creusets servaient à stocker le grain, le troisième à le faire fermenter, dit l'étude nouvellement publiée. L'endroit où se trouvent les creusets suggère que la production du breuvage était apparemment liée à des cérémonies ou d'autres formes d'activités sociales. Selon l'article publié avec des chercheurs de l'université américaine de Stanford, ces innovations étaient antérieures de plusieurs millénaires au début de la culture domestique de céréales au Proche-Orient. Les Natoufiennes font le lien entre le paléolithique et le néolithique et le passage du mode de vie des chasseurs-cueilleurs à celui des agriculteurs sédentarisés en Méditerranée orientale. Ils étaient les derniers de la région à vivre de façon différente des habitants des villages qui nous sont familiers. Les efforts déployés pour produire de l'alcool sont indicatifs de l'importance que revêtait cette boisson dans leur culture, dit-il. Voilà donc, c'était du côté d'Israël qu'il fallait se pencher pour trouver la première brasserie du monde, et pas au Liechtenstein ou à Munich.
On revient vers la santé, à des choses plus sérieuses.
Ah oui. J'ai annoncé que vous alliez lire la mode.
Après, je garde ça pour la fin. Là. Tout à fait. Alors, on va parler d'un examen ophtalmologique qui pourrait donc aider à détecter l'Alzheimer. Des chercheurs du côté des États-Unis ont décrit jeudi une technique encore expérimentale qui pourra peut-être permettre de détecter un jour des signes avant-coureurs de la maladie d'Alzheimer grâce à un simple examen ophtalmologique. À l'aide d'un instrument utilisé communément par les ophtalmologues, une équipe de chercheurs a pu observer chez certains patients un endommagement de la rétine. Or, ces patients présentaient plus fréquemment dans leur corps des traces de protéines liées à la maladie d'Alzheimer, l'amyloïde et tau, TAU, suggérant un éventuel lien entre les deux phénomènes. La plupart d'entre nous ont une petite zone sans vaisseau sanguin au centre de la rétine, l'endroit qui est responsable de notre vue la plus précise, explique un co-auteur, Rajendra Apte, professeur d'ophtalmologie à l'Université Washington de Saint-Louis. Cette zone sans vaisseau sanguin était significativement plus large chez les gens ayant une maladie d'Alzheimer préclinique. L'étude a été publiée jeudi dans la revue médicale américaine JAMA Ophthalmology. Seulement 30 patients ont participé à l'expérience, un échantillon limité qui rend nécessaire de nouvelles expérimentations à plus grande échelle. Ils avaient autour de 75 ans et ne présentaient pas de symptômes d'Alzheimer. En outre, l'étude n'a pas suivi les patients dans le temps pour vérifier s'ils avaient effectivement développé la maladie d'Alzheimer ou non. Il faudrait conduire l'expérience sur un bien plus grand nombre de personnes, sur une période plus longue, avant de tirer aucune conclusion, prévient Doug Brown, directeur de la recherche à l'Alzheimer Society. Alzheimer peut commencer à endommager le cerveau jusqu'à deux décennies avant les premiers symptômes de mémoire et premiers troubles neurologiques. Le système nerveux central et la rétine sont liés, expliquant les chercheurs, et les changements du cerveau pourraient donc être reflétés dans les cellules de la rétine. En théorie, repérer les premiers signes d'Alzheimer par un examen visuel coûterait moins cher et serait non invasif. Comparé à la technique actuelle pour détecter les protéines liées à la maladie par une ponction lombaire, Il n'y a toujours pas de guérison possible d'Alzheimer, mais des traitements, certes limités, existent contre les symptômes qui sont principalement des troubles des fonctions cognitives.
battements silence. Crois-moi, tu n'as plus de recours que prendre ton mal en patience. L'amour ne dure pas toujours. Tu te jouais de moi, je pense. Quand je croyais t'aimer d'amour, ah, je te change la balance. L'amour ne dure pas toujours. Tu as été mon espérance. Je t'ai appelé en secours. Tu viens bien tard, mais pour ma chance, l'amour ne dure pas toujours. Tu fus aussi ma délivrance. Tu sais, passer en quelques jours. Avant, après, c'est la souffrance. L'amour ne dure pas toujours. Chacun son tour. Mon cœur fatigué prend la grâce. L'amour ne dure pas toujours.
Service, on entendait Feist, l'amour ne dure pas toujours.
Stéphanie Morin nous parle de chasseurs d'aubaines aériennes dans la presse. Ils ont du flair pour les bonnes affaires et les billets d'avion pas chers. Des Québécois en ont fait leur gagne-pain en alimentant des sites, des blogs, voire des applications. Petit portrait et conseil. Les vols d'Alexis. C'est en abonnement. Il y a 2 ans, Alexis Roy a décidé de partir en voyage, n'importe où, n'importe quand. Son horaire était grand ouvert. J'ai commencé à chercher intensément sur Internet, mais aucun site ne me donnait assez d'infos pour faire mon choix. Certains affichaient des aubaines qui dataient de 8 ou 9 jours. Détenteur d'une formation en programmation, il décide de créer un programme « Ces petits robots », s'appelle-t-il. Pour chercher à sa place sur les sites web, il déniche ainsi l'aubaine qu'il cherche, $550 aller-retour pour un vol vers l'Indonésie au départ de Montréal. Il met aussi la main sur un vol vers Paris à $195 avec Air Transat. Le 1er février dernier, devant le succès de ses petits robots, auprès de son cercle rapproché, il décide de lancer le site « Les vols d'Alexis ». Pour pouvoir consulter en entier le fruit de ses recherches, il faut payer $60 par année, soit l'équivalent de $5 par mois. Ensuite, vous avez le site Euler, le choix du président. L'un des pionniers des sites d'aubaine au Québec, Euler a changé de main en janvier dernier. C'est Michel Rochefort, l'homme derrière le blog youlfly.com, qui a pris le relais. Il a adopté des modifications au site lancé en 2014. Puis vous avez le site Fly Trippers, qui parle lui du prix avant tout. Ils sont deux amoureux du voyage qui ont lâché leur carrière respective pour lancer en janvier 2017 Fly Trippers, un site gratuit qui comptabilise 200 000 visiteurs uniques chaque mois et plus de 100 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Notre seul critère, c'est le prix. Et on laisse les gens le soin de décider si l'aubaine leur convient ou non. Puis vous avez le site Hopper, H-O-P-P-E-R, la science des prix. Peu de gens le savent, mais l'une des applications de voyage les plus téléchargées sur iOS est née à Montréal, il y a un peu plus d'une dizaine d'années. Nous sommes les seuls capables de prédire le prix futur d'un billet d'avion un an à l'avance à 5 $ près avec un taux de réussite de 95%. Frédéric Lalonde, cofondateur de Hopper. Hopper détruit du coup les vieilles croyances voulant qu'il existe des journées meilleures que d'autres pour acheter un billet d'avion. C'est du toc. Hopper a ajouté en mars dernier un outil pour prédire le prix de 3000 hébergements dans 25 villes. L'application permettra aussi bientôt d'assembler deux billets, un aller et un retour, sur des compagnies aériennes différentes. On peut payer 40% moins cher de cette façon, explique le président directeur général de Hopper. Autre nouveauté attendue cette année, l'application sera offerte en français.
Si vous suivez un tant soit peu l'actualité, le nom de prix Nobel ne vous est pas du tout étranger, les prix Nobel. Eh bien, connaissez-vous les prix IG Nobel ?
Non.
Peut-être pas, je vais vous les faire découvrir donc ce matin, les prix IG Nobel. Madame Liang et ses collègues ont constaté que le fait de maltraiter une poupée vaudou virtuelle au lieu de votre patron vous fera sentir mieux, tout en vous évitant d'être renvoyé ou jeté en prison. Une étude qui leur a valu un prix IG Nobel 2018, les honneurs décernés annuellement par le magazine scientifique humoristique Annals of Improbable Research pour la découverte scientifique comique mais pratique. Parmi les autres lauréats cette année, un médecin japonais qui a mis au point une nouvelle méthode révolutionnaire pour auto-effectuer une coloscopie, un professeur d'archéologie britannique qui a déterminé que la chair humaine n'est pas très nutritive, une équipe australienne qui a constaté que les personnes qui achètent des produits de haute technologie n'ont vraiment aucun intérêt pour le manuel d'instruction, et des chercheurs universitaires espagnols qui ont mesuré les effets des cris et des injures au volant. Les prix décernés lors de la 28e cérémonie annuelle à l'université de Harvard ont été remis par des vrais lauréats du prix Nobel. L'événement comprenait le traditionnel raid aérien des avions de papier et la première de The Broken Heart Opera, présenté avec l'aide des cardiologues de la faculté de médecine de Harvard. Les gagnants, qui comme à leur habitude se sont rendus au Massachusetts à leurs frais, ont également reçu un prix en espèces de 10 000 milliards de dollars zimbabwéens, ce qui n'a pratiquement aucune valeur. Chacun a eu 60 secondes pour prononcer un discours d'acceptation avant, comme le veut la coutume, qu'une fillette de 8 ans ne monte sur scène pour les interrompre. « S'il vous plaît, arrêtez, vous m'ennuyez. » Madame Liang, une professeure adjointe d'affaires à l'université Wilfrid Laurier de Waterloo en Ontario, est une spécialiste de l'agressivité en milieu de travail. « Nous voulions comprendre pourquoi les subalternes ripostent quand c'est mauvais pour eux », a-t-elle déclaré. « Nous savons tous que crier à notre patron est mauvais pour votre carrière, alors quelle est la fonction des représailles ? Pourquoi les gens continuent-ils à le faire ?» De toute évidence, Madame Liang ne pouvait pas demander aux gens de donner une raclée à leur patron. Au lieu de cela, on leur a montré une poupée vaudou en ligne avec les initiales de leur superviseur. Ils ont alors eu la possibilité de maltraiter la poupée virtuelle avec des épingles, des pinces ou du feu. Le plus important, les gens se sentaient mieux après avoir tabassé la poupée ou, comme Madame Liang l'a dit, leurs perceptions d'injustice sont désactivées. Pourtant, elle n'approuverait pas d'un milieu de travail encombré de poupées vaudou pour permettre aux gens de se défouler. Commençons plutôt par créer des milieux de travail plus polis et plus respectueux, dit-elle. James Cole, un professeur d'archéologie à l'université de Cambridge Brighton, a mérité son prix IG Nobel pour une étude sur le cannibalisme, qui a révélé que manger de la chair humaine n'est probablement pas la solution si l'on veut un repas riche en calories. « Le cannibalisme est assez courant dans l'histoire de l'humanité », a-t-il expliqué, « et le consensus parmi les chercheurs est que les humains mangent d'autres humains, principalement pour des raisons nutritionnelles. » Monsieur Cole a constaté que la valeur calorique des humains n'est pas très élevée, comparée à celle des autres animaux que nous savons que nos ancêtres ont chassés et mangés. « Nous ne sommes pas super nutritifs », a-t-il déclaré. Comment M. Cole a-t-il déterminé la valeur calorique d'un humain ? Ne vous inquiétez pas, aucun humain n'a été dévoré pour son étude. Il a utilisé une formule préalablement déterminée qui fonde le nombre de calories des parties du corps sur le poids et la composition chimique. Le docteur Akira Horiyoshi, enfin, un pédiatre à l'hôpital général Showa Inan de Komagane, au Japon, a été récompensé pour son étude d'autocoloscopie, au cours de laquelle il utilisait un coloscope conçu pour les enfants assis en position allongée. Le docteur Horiyoshi ne recommande pas que vous vous donniez une coloscopie dans le confort de votre foyer. Il a expliqué par courriel que de nombreuses personnes avaient peur de la coloscopie et il voulait simplement démontrer à quel point cela pouvait être facile. Merci au prix IG Nobel pour ce voyage à travers le monde scientifique.
Merci.
What the hell they fighting for? Not a man with the blame ring is further apart, but he do not know. You can't rule another's heart. You can't get a love below. Solidarity.
J'ai ancré l'espérance aux racines de ma vie.
Formation Lamo Mali, solidarité.
Parlons de mode, un autre sujet très sérieux. Et le titre, c'est « S'habiller sans se voir ». C'est un dossier de Chloé Mario de La Presse qui date du mois d'août 2018. Le regard d'un autre pour choisir ses vêtements. Elles ont perdu la vue durant leur vue. Elles ont perdu la vue durant leur vie ou dès la naissance. José et Catherine ont cependant à cœur de s'habiller selon leur style pour envoyer une image qui leur correspond. Au quotidien, cela demande une organisation millimétrée. Je veux une robe, pas de couleur vive, sans trop de motifs, qui arrive au-dessus du genou, qui soit assez fluide et confortable, indique José Boyer, 50 ans. Je cherche aussi des sandales blanches, noires ou grises qui vont avec tout. Et de résumer dans un éclat de rire, je suis difficile, je sais ce que je veux. Je me souviens de ce que j'aimais. Fait allusion à la période où elle avait toutes ses capacités visuelles. José Boyer a graduellement perdu la vue à partir de 2003 à cause de deux maladies, la cataracte et le glaucome. Aujourd'hui non-voyante, elle est agente de développement et de communication au regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, RAM. Ce regroupement offre entre autres un service d'aide bénévole pour épauler les aveugles au quotidien. Pendant 13 ans, José Boyer a été accompagné par la même bénévole, pour magasiner, même si celle-ci a arrêté. Alors, ce jour-là, c'est Guenièvre Sandré, une comédienne de 29 ans, qui lui prête main forte. La jeune femme accompagne parfois des mâles ou non-voyants au musée ou à l'épicerie, mais magasiner est une première. On a beaucoup jasé par téléphone pour que j'explique mes goûts, précise José Boyer. Il faut établir une relation de confiance. Si quelqu'un nous dit ensuite que ça ne nous va pas, ce n'est pas plaisant. Entre les deux femmes, le courant est passé. Elles se sont donc donné rendez-vous pour 2 heures de magasinage. Bras à 90 degrés, Guenièvre Sandré dirige José, canne blanche à la main, jusqu'au magasin que cette dernière a choisi. Une enseigne qu'elle fréquentait avant de perdre la vue. Une fois à l'intérieur, Guenièvre Sandré s'attelle à décrire avec le plus de précision chaque robe qui pourrait plaire à José Boyer. Celle-ci est rose, un peu comme la crème glacée aux framboises. Il y a plusieurs bretelles qui se croisent et des motifs de feuilles blanches et noires. Elle en attrape une autre. Celle-ci est bleu turquoise avec une fermeture argentée à l'arrière. Elle est très décolletée. Ne me plaît pas. La matière, on dirait un rideau. Elle est trop longue, commente-t-elle. Et le duo enchaîne ainsi avec une dizaine de modèles. Au toucher d'un haut à épaule dénudée, pièce que José Boyer n'a connue avant de perdre la vue, elle est déconcertée. Mais c'est quoi? On dirait une jupe. Finalement, José Boyer file dans la cabine d'essayage avec 5 robes. Celle-ci est belle. Elle vous voit très bien et met votre teint en valeur, s'enthousiasme Guenièvre Sandré, pendant que José Boyer essaie ses vêtements. Au bout du compte, elle repart avec 3 robes. Une rose, une noire, une tricolore à palmier. Le binôme se dirige alors vers une enseigne voisine et évite quelques personnes inattentives, yeux rivés sur leur cellulaire, qui se dirigent droit sur José Boyer. Au passage, elle demande à Guenièvre Sandré « Comment es-tu habillé, toi ?» Les deux se mettent à la recherche de sandales. Un jour, je n'étais pas réveillé et pressé, et j'ai mis 2 sandales du même modèle, mais de couleurs différentes, et personne ne m'a rien dit avant que j'arrive au bureau, se souvient-elle en riant. Elle prend toujours le soin d'acheter des pièces qui se marient avec tout. Comme ça, je ne me casse pas la tête. Au quotidien, elle utilise une application sur son cellulaire qui lui permet de détecter les couleurs. Elle pointe son téléphone vers le vêtement et lui annonce à voix haute la couleur. Il lui arrive de faire du magasinage seul, mais cela est rare. Seulement pour une veste noire, par exemple. Pourquoi faire appel à un bénévole plutôt qu'à son entourage ou un vendeur? Le vendeur n'a pas toujours le temps. Idem pour l'entourage. Et puis on veut être autonome. L'entourage a tendance à vouloir nous habiller selon ce qu'ils aiment, pas selon nos goûts. Je suis plus à l'aise avec une bénévole. José Boyer a cependant déjà eu quelques expériences peu concluantes. Certains ne décrivaient pas assez les vêtements. Et il faut être franc ou nous dire ce qui ne nous va pas. Elle n'a jamais été une grande fan de magasinage, mais elle reste coquette. Et surtout, elle veut renvoyer une image qui lui correspond. Ce qui lui manque le plus depuis qu'elle a perdu la vue, me voir dans le miroir et le regard des autres. Il a fallu faire le deuil. 1,6% en 2012. Parmi les personnes de 15 ans et plus, 1,6% des Québécois avaient une incapacité liée à la vision. Environ 101 770 personnes. Par incapacité visuelle, comprendre. Difficulté à voir même avec des lunettes ou des verres de contact qui limitent les activités quotidiennes. Les personnes qui ont déclaré à la fois éprouver un peu de difficulté mais rarement être limitées par leur activité quotidienne ne sont pas considérées comme ayant cette incapacité. Et parmi les personnes avec incapacité liée à la vision, environ 9270 étaient aveugles en 2012. C'est une source donnée de l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2012.
Voyageurs branchés, en 2022, passer 20 heures en avion sera parfaitement normal et très confortable. En lançant le défi à Airbus et Boeing de créer un avion capable de relier Londres à Sydney sans escale, le PDG de Qantas Airlines, Alan Joyce, pourrait avoir transformé complètement la façon dont on voyagera à partir de 2022, car pour asseoir 300 personnes à bord d'un avion pendant 20 heures, Il faut s'assurer d'un certain niveau de confort qu'on ne trouve pas à l'heure actuelle dans les avions parcourant de moins longues distances. C'est pourquoi le projet Sunrise, comme l'appelle Qantas, devra non seulement améliorer l'autonomie en vol des avions, mais aussi l'aménagement de leurs cabines. Tout est à l'étude, confirme un porte-parole de la ligne australienne, allant d'un gymnase à un bar en passant par des couchettes et des lits pour bébés. Pour concrétiser son projet, Qantas hésite entre l'A350 d'Airbus et le 777X de Boeing, deux gros porteurs, mais prévoit déjà passer une commande ferme au plus tard lundi prochain. Et puis, on continue avec les ustensiles et assiettes utilisés à bord. Sont-ils recyclés ? Chez Air Transat, seuls les couverts métalliques et les assiettes de porcelaine sont lavés et réutilisés. Le plastique, lui, prend le chemin de la poubelle. Après, il y a quand même d'autres recyclages qui se font par rapport aux ustensiles qui ont été utilisés, qui sont durs.
Bien, espérons que tout ceci va dans la même direction pour sauver notre belle planète. Alors, merci à tous pour ces bons sujets. Merci à Maurice Bolduc pour la mise en onde et les choix musicaux. À la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.
Au revoir.